Bienvenue sur Radio Alliance Plus. Nous avons le plaisir de vous présenter le service protestant. Le culte qui va être diffusé a été préparé et sera animé par Bernard Cavalier, prédicateur de l'Église protestante unie de France, avec la participation de Anne-Marie Cavalier. Nous vous souhaitons une bonne écoute.
Mélanie Martin priait ainsi un jour. Maintenant, j'ai besoin de quitter un instant l'agitation de ce monde. J'ai besoin de ralentir mes pas et de venir à ta rencontre. J'ai besoin de m'arrêter un instant pour reprendre souffle. Toujours fidèle, dimanche après dimanche, Dieu nous propose cette rencontre que nous allons vivre ensemble afin que nous puissions un instant quitter l'agitation du monde, ralentir nos pas pour aller à sa rencontre et nous arrêter un instant pour reprendre souffle. Que chacun se sache le bienvenu. Amen.
Avec Jacques Ellul, louons Dieu. Quand donc, ô mon Seigneur, pourrais-je commencer à trouver ces accents nouveaux qui seuls me conviendraient? Ces mots inattendus, ces paroles uniques, pour dire ta louange et mon adoration. Tout a déjà souvent proclamé cette gloire et cet amour unique en quoi tu l'engloutis. Tout alors était dit, et que pourrais-je encore qu'il ne soit entendu, si souvent répété? Et pourtant, maintenant, je ne puis plus écrire que pour chanter à toi, mon Seigneur et mon Dieu, pour trouver au-delà des instances humaines ce qu'inlassablement tu recrées de nouveau. De nouveau. À nouveau, ce simple jour à vivre que tu me donnes encore dans ta grande piété. Et nouveau cet espoir au-delà des désastres. Et nouveau ce regard émerveillé par toi. Le seul qui m'ait comblé dans ma pauvreté triste, le seul qui soit fidèle alors que tout mon cœur devenait infidèle et traître et plus menteur. Mais tu as maintenu et tu m'as rappelé. Et j'ai redécouvert l'innocence et ta gloire. Et j'ai redécouvert l'unique en ton amour pour moi seul conservé. Et j'ai redécouvert que tu n'as rien perdu de ce que j'ai gâché. Amen.
He got the whole world in his hand. He got the whole wide world in his hand. He got the whole world in his hand. In his hand, oh yes, he has, he got it. In his hand, he got the whole world. In his hand, he got the whole wide world in his hand. Come on with your money. Don't be afraid to give. God got the whole wide world in his hand. Surely gonna let you live. He got the money too. In his hand, he owned all the banks. In his hand, he got the whole world in his hand. Hey, he got the kings and the queens in his hand. All the presidents right in his hand. He got everybody right in his hand and got the whole wide world in his hand. Yeah, I want to know, my brothers, what are you fighting for land? Let me tell you this. God got the whole world in his hand and he owns this whole land. Yeah, he got the whole world in his hand. He got the whole wide world in his hand. He got the whole world in his hand. He got the whole wide world in his hand. Let me tell you, he got the country of France in his hand. Yeah, and England too, yes he has. In his hand he got a Belgium. Yeah, in his hand he got the whole wide world in his hand. And then another thing, he got Alabama, yes he has. In his hand, woo, Louisiana tyler in his hand. He got a Mississippi in his hand. He got the whole wide world in his hand.
Je vous invite à vous recueillir un instant. Notre Père, parmi les idoles qui encombrent nos vies, il y a celle que tu as déjà brûlée. Parmi les fardeaux qui chargent nos cœurs, il y a ceux que tu as déjà allégés. Parmi les chaînes qui entravent notre amour, il y a celles que tu as déjà brisées. Si notre route monte ainsi vers toi, c'est que ta force est venue habiter notre faiblesse. Des idoles encore aimées, que nous connaissons trop, délivre-nous. Des fardeaux inutiles, qui nous attardent loin de toi, délivre-nous. Des chaînes accablantes que nous ne voulons plus dénouer, délivre-nous. Amen.
Déclaration de pardon. Ésaïe 55, 1. À celui qui a soif, je donnerai de l'eau de la source de vie et je la donnerai gratuitement. Vous qui avez soif d'une vie nouvelle, recevez l'assurance qu'effaçant tout ce qui est d'hier, Dieu fait en vous toute chose nouvelle. Amen.
Thank you.
Au moment où nous allons ouvrir les Écritures, je vous invite à vous recueillir un instant. Seigneur notre Dieu, les textes que nous allons lire sont complexes. Nous avons le plus souvent bien du mal à les comprendre, tant ils nous parlent d'un temps, de peuples et de cultures que nous connaissons mal. Nous sommes troublés par la lecture de certains passages de ces livres qui constituent la Bible, car ils nous parlent de toi de façon différente. Tantôt, ils te présentent comme un Dieu fort et jaloux, tantôt comme un souffle fragile, un zéphyr plein de douceur. C'est pourquoi cela nous trouble et nous sommes parfois tentés d'en abandonner la méditation. Pourtant, lorsque nous prenons la peine de lire et de méditer ces paroles, nous en comprenons toute la richesse. Elles disent des réalités et des préoccupations intemporelles. Toutes nous présentent la vie telle qu'elle est, sans mensonge ni artifice, mais également et surtout, elles nous disent cette quête de toi qui habite les hommes depuis le fond des âges. Elles nous disent comment ta présence-absence peut encore agir ici et maintenant, dans nos vies et sur le monde. C'est pourquoi nous te demandons de venir, par ton Saint-Esprit, nous éclairer, afin que pour nous aussi, ces paroles deviennent paroles de vie. Parmi les quatre textes qui sont proposés à notre méditation de ce jour, j'en ai choisi deux qui vont nous être lus maintenant.
Chronique, chapitre 1, versets 1 à 31. La reine de Saba entendit parler de la réputation de Salomon. Pour le mettre à l'épreuve par des énigmes, elle vint à Jérusalem avec une suite très imposante, avec des chameaux chargés d'aromates, d'or en grande quantité et de pierres précieuses. Arrivée chez Salomon, elle lui parla de tout ce qui lui tenait à cœur. Salomon lui donna la réponse à toutes ses questions. Aucune question ne fut si obscure que le roi ne put lui donner une réponse. La reine de Saba vit la sagesse de Salomon, la maison qu'il avait bâtie, la nourriture de sa table, le logement de ses serviteurs, la qualité de ses domestiques et leurs livrées, ses échansons et leurs livrées, les holocaustes qu'il offrait dans la maison du Seigneur, et elle en perdit le souffle. Elle dit au roi, « C'était bien la vérité ce que j'avais entendu dire dans mon pays sur tes paroles et sur ta sagesse. Je n'avais pas cru à ses propos tant que je n'étais pas venue et que je n'avais rien vu de mes yeux. Or, voilà qu'on ne m'avait pas révélé la moitié de l'ampleur de ta sagesse. Tu surpasses la réputation dont j'avais entendu parler. Heureux tes gens, heureux tes serviteurs, eux qui peuvent en permanence rester devant toi et écouter ta sagesse. Béni soit le Seigneur ton Dieu, qui a bien voulu te placer sur ton trône comme roi au service du Seigneur ton Dieu. C'est parce que ton Dieu aime Israël, pour le faire subsister à jamais, qu'il t'a placé sur lui comme roi, pour exercer le droit et la justice. » Elle donna au roi 120 talents d'or, des aromates en très grande quantité et des pierres précieuses. Il n'y eut jamais d'aromates comme ceux que la reine de Saba donna à Salomon. De plus, les serviteurs de Hiram et ceux de Salomon qui avaient apporté l'or d'Ophir avaient aussi apporté du bois de santal et des pierres précieuses. Le roi fit des parquets avec le bois de santal pour la maison du Seigneur et la maison du roi, ainsi que des sitars et des harpes pour les chanteurs. On n'en avait pas vu auparavant de semblables dans le pays de Juda. Le roi Salomon accorda à la reine de Saba tout ce qu'il lui plut de demander, sans rapport avec ce qu'elle avait apporté au roi. Puis elle s'en retourna dans son pays, elle et ses serviteurs. Les richesses de Salomon. Le poids de l'or qui parvenait à Salomon en une seule année était de 670 talents d'or, sans compter ce qu'apportaient les voyageurs et les marchands. Tous les rois d'Arabie et les gouverneurs du pays apportaient de l'or et de l'argent à Salomon. Le roi Salomon fit 200 grands boucliers en or battu, pour lesquels il fallait 600 sicles d'or battu par bouclier et 300 petits boucliers en or battu, pour lesquels il fallait 300 sicles d'or par bouclier. Le roi les déposa dans la maison de la forêt du Liban. Le roi fit un grand trône d'ivoire qu'il revêtit d'or pur. Ce trône avait 6 degrés et un marchepied en or, des poignées et des accoudoirs de chaque côté du siège. 2 lions se tenaient à côté des accoudoirs et 12 lions se tenaient de chaque côté sur les 6 degrés. On n'a rien fait de semblable dans aucun royaume. Toutes les coupes du roi Salomon étaient en or et tous les objets de la maison de la forêt du Liban en or fin. On ne tenait aucun compte de l'argent au temps de Salomon. Car le roi avait des navires allant à Tarsis avec des serviteurs de Hiram. Et tous les 3 ans, les navires de Tarsis revenaient chargés d'or, d'argent, d'ivoire, de singes et de paons. Le roi Salomon devint le plus grand de tous les rois de la terre par la richesse et la sagesse. Tous les rois de la terre cherchaient à voir Salomon afin d'écouter la sagesse que Dieu avait mise dans son cœur. Chacun apportait son offrande, objets d'argent, objets d'or, vêtements, armes, aromates, chevaux et mulets, et cela chaque année. Salomon avait 4 000 stalles pour les chevaux, des chars et 12 000 cavaliers qu'il cantonna dans les villes de garnison et près du roi à Jérusalem. Il domina sur tous les rois depuis le fleuve jusqu'au pays des Philistins et jusqu'à la frontière d'Égypte. Le roi fit qu'à Jérusalem, l'argent était aussi abondant que les pierres et les cèdres aussi nombreux que les sycomores du bas pays. Les chevaux de Salomon provenaient d'Égypte et de tous les pays. La mort de Salomon. Le reste des actes de Salomon n'est-il pas écrit, des premiers au dernier, dans les actes du prophète Nathan, dans la prophétie d'Aïa de Silo et dans la vision du voyant Yédo à propos de Jéroboam, fils de Névat? Salomon régna 40 ans à Jérusalem sur tout Israël. Salomon se coucha avec ses pères. On l'ensevelit dans la cité de David son père et son fils Roboam régna à sa place. Évangile de Jean, chapitre 12, versets 20 à 33. Il y avait quelques Grecs qui étaient montés pour adorer à l'occasion de la fête. Ils s'adressèrent à Philippe, qui était de Bethsaïda de Galilée, et ils lui firent cette demande. « Seigneur, nous voudrions voir Jésus. » Philippe alla le dire à André, et ensemble ils le dirent à Jésus. Jésus leur répondit en ces termes. « Elle est venue, l'heure où le Fils de l'homme doit être glorifié. En vérité, je vous le dis, si le grain de blé qui tombe à terre ne meurt pas, il reste seul. Si au contraire il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui aime sa vie la perd, et celui qui cesse de s'y attacher en ce monde la gardera pour la vie éternelle. Si quelqu'un veut me servir, qu'il se mette à ma suite. Et là où je suis, là aussi sera mon serviteur. Si quelqu'un me sert, le Père l'honorera. Maintenant, mon âme est troublée, et que dirais-je? Père, sauve-moi de cette heure? Mais c'est précisément pour cette heure que je suis venu. Père, glorifie ton nom. Alors une voix vint du ciel. Je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui se trouvait là et qui avait entendu disait que c'était le tonnerre. D'autres disaient qu'un ange lui avait parlé. Jésus reprit la parole. « Ce n'est pas pour moi que cette voix a retenti, mais bien pour vous. C'est maintenant le jugement de ce monde. Maintenant, le prince de ce monde va être jeté dehors. Pour moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai à moi tous les hommes. »
Quelle fortune! Si l'on en croit les spécialistes de la question, 670 talents d'or de l'époque du roi Salomon représentent un peu plus de 22 tonnes d'or, soit plus $1 milliard. Voilà de quoi satisfaire l'appétit le plus insatiable. Selon le livre des Chroniques, le roi Salomon était riche, très riche même. En outre, ce tas d'or ne constituait qu'une partie de ses richesses et du tribut qui lui était annuellement versé, puisqu'il recevait bien d'autres choses encore, comme nous l'avons vu. Avec ses 4 tonnes d'or, la reine de Saba était dans la norme de ce qui était régulièrement donné au grand roi. Si l'on en croit le texte que nous venons de lire, les conseils que donnait le roi Salomon aux autres grands de ce monde étaient grassement rétribués. On comprend aisément qu'avec un tel viatique, la reine de Saba ait été bien reçue et que le roi lui ait consacré tout le temps nécessaire pour répondre à ses très nombreuses questions. Si l'on résume de façon lapidaire la vie du roi Salomon, 3 ou 4 mots seraient suffisants. Sagesse, richesse, puissance et longue vie. Ce texte nous dit que Salomon a régné pendant 40 ans, ce qui constitue, surtout pour cette époque, un très long règne. Cela en dit également long sur la façon dont le rédacteur du livre des Chroniques imaginait les fruits de la bénédiction divine. Salomon en a été le bénéficiaire tout au long de sa vie sur terre. On observe qu'après ce très long règne, il meurt pour être couché auprès de ses pères. C'est tout. C'est bref. Aucune allusion dans ce texte à une quelconque poursuite, sous une forme ou sous une autre, d'un au-delà de la vie qui fut la sienne sur terre. Quelle est la véracité exacte de cette histoire? Il est difficile de le dire, puisque de nombreux archéologues et historiens considèrent que le royaume sur lequel régnait Salomon était faible par rapport à ses puissants voisins. Peu importe la réalité historique, ce texte vient clairement exposer en quoi consistait la bénédiction divine accordée à ses plus fidèles serviteurs, du moins telle qu'on la concevait au moment de la rédaction de ce livre. Changement total de décor, si l'on peut s'exprimer ainsi, en ce qui concerne Jésus. Jésus, le juste parmi les justes, le sage parmi les sages, le fidèle parmi les fidèles, ne bénéficie pas d'une telle récompense pour sa constance dans la foi. Il n'est pas riche, il est contesté par les puissants, particulièrement les docteurs de la loi. Sa vie sera brève, mais en plus de tout cela, il est promis à une fin atroce, celle de la croix. Au moment où nous en sommes de son ministère, dans le passage de l'évangile de Jean que nous venons de lire, il le sait ou l'a déjà compris. Nous sommes là aux antipodes de ce qu'a connu Salomon en récompense de sa fidélité. Cela surprend d'autant plus que l'on sait qu'il ne fut pas comme Jésus, toujours d'une parfaite constance dans cette fidélité. Il avait beau être un sage, il n'en restait pas moins un homme. Quelle évolution de la pensée entre celle des rédacteurs du livre des Chroniques et celle de l'évangéliste Jean. Voyons plutôt. Dans le livre des Chroniques, Dieu est le Dieu d'un peuple qui l'accompagne et protège. Son oint, Salomon, reçoit outre le pouvoir, puissance, fortune et longévité, en complément de ce qu'il avait demandé et en raison même de la nature de cette demande, à savoir la sagesse. La beauté de sa vie atteste du regard bienveillant que Dieu pose sur son serviteur, malgré ses quelques incartades. Dans l'évangile de Jean, ce sont des Grecs, donc des étrangers à la nation juive, qui demandent à voir Jésus. Ils voient en lui, sinon loin de Dieu, au moins un grand prophète ou un grand thaumaturge. Ce fait même permet de comprendre que pour l'évangéliste Jean, qui voit en Jésus le Fils de Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tel qu'il est présenté dans le Premier Testament, a également vocation à être celui de tous les hommes. Sinon, pourquoi aurait-il cru bon de signaler la nationalité des hommes qui souhaitaient rencontrer Jésus? Il ouvre ainsi cette vocation à une universalité sans laquelle notre foi n'aurait pas de raison d'être. C'est déjà là, sans doute, la première nouveauté par rapport au Dieu de la première alliance, tel que présenté dans le livre des Chroniques. Par ailleurs, le Dieu que nous découvrons là est aux antipodes d'un Dieu de la rétribution, tel qu'il était imaginé au temps du roi Salomon. La fidélité à Dieu n'est pas une assurance touriste contre le malheur. Jésus lui-même le sait, le comprend. Et le dit, si le grain ne meurt. Il faut dire que depuis ces temps déjà anciens, à l'époque de Jésus, beaucoup d'eau avait coulé sous les ponts du Jourdain. Les hommes de ce siècle savaient autant que nous que bien des justes étaient morts prématurément, bien des êtres bons étaient morts dans la misère, bien des artisans de paix n'avaient pas vu sur terre l'accomplissement de leurs rêves. Alors les hommes se questionnaient légitimement sur ce silence de Dieu. Le livre de Job illustre bien cette interrogation. Pourtant, leur foi leur disait bien, comme elle nous le dit encore, que la justice de Dieu doit toujours in fine se manifester à un moment ou à un autre, mais quand et sous quelle forme? Ces interrogations qui hantaient déjà les hommes de foi de ce temps nous préoccupent encore. Elles sont intemporelles. Les éternelles questions du bien et du mal, du juste et de l'injuste, et surtout du pourquoi, sont une fois encore posées. La lecture juxtaposée en un continuum de ces deux textes montre, s'il en était besoin, combien cette question a toujours, à un moment ou l'autre, été celle de tous les croyants. Chaque croyant se la pose fatalement un jour ou l'autre de sa vie. Pourquoi faut-il donc que le grain de blé tombe à terre et meure pour ne pas rester seul? C'est encore là une grande question. Le Dieu que nous confessons, celui de Jésus-Christ, notre Père, ne se dévoile pas facilement. Il ne se démontre pas. Les manifestations de sa justice que nous confessons et chantons dans bien de nos cantiques ne se manifestent pas de façon évidente. Alors, simplement, je me suis posé la question suivante. Pourquoi cela? Il serait bien prétentieux de ma part de dire que j'ai une réponse satisfaisante à cette question. Mais peut-être une piste de réflexion qui me semble pouvoir nous aider dans nos méditations sur ce questionnement important auquel se trouvent régulièrement confrontés les femmes et les hommes de foi. À la base de cette réflexion, deux affirmations. La première viendrait de Dieu lui-même. Voici, j'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. « Choisis la vie », tel que cela est écrit dans le livre du Deutéronome. La seconde tient à l'assurance selon laquelle, en Christ, nous sommes libres. Nous savons que la notion de liberté est indissociablement associée à une autre notion, celle du libre choix. Un choix qui engage toujours et parfois coûte. La liberté peut-elle exister ? Sans qu'à un moment ou l'autre nous ayons un choix de cet ordre à faire, un de ces choix qui implique et nous implique, qui est de nature à transformer notre vie et révèle le sens que nous voulons véritablement lui donner. Vous conviendrez sans doute que cela est vrai. Or, c'est justement bien en cela que nous sommes réellement libres. Ces occasions sont nombreuses, mais parmi celles qui sont le plus engageantes dans notre parcours de foi, il y a celle qui consiste à pouvoir se poser, en toute conscience et en toute liberté, la question suivante. Est-ce que je crois ou est-ce que je ne crois pas? Ou dit d'une façon différente, Dieu est-il ou Dieu n'est-il pas? Avoir une réponse indiscutable à cette question serait nous amputer de la plus grande part de liberté que, selon les Écritures, Dieu a voulu nous accorder. Car cet espace de liberté serait en réalité contraint par la réponse à cette question ultime. C'est pourquoi, pour nous humains, il n'y a pas, et il n'y aura vraisemblablement jamais de réponse définitive à cette question. L'absence de doute, donc de choix, serait incompatible avec ce que, selon les Écritures, Dieu a voulu pour nous, la liberté. À chacun sa propre réponse, fruit de ses réflexions et de ses méditations. Les Écritures, avec l'aide du Saint-Esprit, constituent l'aide la plus précieuse que nous ayons pour conduire cette méditation. Chacun d'entre nous possède sa propre vision des choses. Dans le secret de son cœur, seul Dieu partage avec lui la réponse qu'il choisit de donner. Cela est, et cela est bien, car c'est cette part de liberté qui permet de voir en chacun de nos prochains une parcelle de l'image de Dieu. Seul Dieu est totalement libre, mais il a voulu que nous aussi, nous ayons avec lui en partage une part de cette liberté. Cela afin que s'accomplisse ce qui est dit du projet de Dieu pour l'homme au premier chapitre de la Genèse. Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa. Mâle et femelle, il les créa. N'est-ce pas cela, justement, qui fait qu'en chaque homme se trouve parfois un reflet de l'image de Dieu? Acceptant cela, et fort de cette assurance, nous pouvons en confiance faire monter à Dieu nos interrogations. Mon Dieu, qui es-tu? Toi que je prie et sens parfois si loin. Qui es-tu? Toi dont on dit que tu es tout-puissant. Qui es-tu? Toi dont on dit que tu es tout amour. Qui es-tu? Toi dont on dit que tu conduis le monde. Qui reste silencieux quand dans ta création tout vacille et succombe. Qui es-tu? Toi dont la présence absence me fascine et m'obsède. Toi qui m'as tant porté quand mes pas chancelaient. Toi qui dans le doute même est immense espérance. Toi que j'aime et je cherche et dont je ne sais rien. Amen.
Confession de foi. Je crois en Dieu. Je crois en Dieu qui aime les hommes et respecte leur liberté. Je crois que c'est un Dieu généreux qui donne sans réserve tout ce dont nous avons besoin pour vivre. Je crois qu'il a pardonné les fautes, les erreurs. Il se réjouit lorsque l'homme cherche à se rapprocher de lui. Je crois au Dieu de la liberté, de la générosité, du pardon et de la joie. Je crois en Jésus-Christ. Il est fils de Dieu. Il est venu pour tous les hommes, et en particulier ceux qui sont perdus, pour qu'ils trouvent un sens à leur vie. Pour lui, la vie a plus de valeur que toute autre chose. La religion qu'il prêche est la religion du cœur. Jésus délivre des regards accusateurs et des jugements. Il veut nous accueillir tels que nous sommes. Il vient vers nous avec humilité et se fait serviteur de tous. Jésus est la nourriture des hommes. Il les conduit vers le royaume de l'amour. Amen. prière des uns pour les autres. Je vous invite à nous unir dans la prière d'intercession. Demandons à Dieu des femmes et des hommes qui aient un esprit de sagesse, qui osent être témoins de la vérité, qui aient une parole qui libère et renouvelle. Qu'ils nous apprennent à laisser derrière nous ce qui est dépassé, à nous ouvrir aux choses nouvelles que Dieu veut toujours commencer avec nous. Prions pour que nous ne rougissions pas de l'Évangile, que nous osions être signes de contradiction, que nous trouvions les mots qui annoncent aujourd'hui la bonne nouvelle. Prions avec insistance pour que le peuple de Dieu ne soit pas divisé, que personne ne s'obstine dans des voies nouvelles, que personne ne s'obstine à rester en arrière sur des routes vieillies. Et toutes ces prières que nous voulons faire monter vers lui se trouvent dans celles que notre Seigneur Jésus nous a enseignées. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit. Amen.
Si vous souhaitez participer à la vie financière de l'Église protestante unie de Nîmes, vous pouvez le faire à partir de son site internet nimes-église-protestante-unie.fr ou bien en envoyant un chèque à Église protestante unie de Nîmes, Maison du protestantisme, 3 rue Claude Brousson, 30 000 Nîmes. Le culte qui vient d'être diffusé a été préparé par Bernard Cavalier, prédicateur de l'Église protestante unie de France, avec la participation de Anne-Marie Cavalier. Restez à notre écoute pour la suite de notre programme. Thank you.